Un bouche d'Imaï sur 93,8.
Ils sont près de 100 enfants sortis des mines de la périphérie de la ville de Mbujimayi. Ils ont retrouvé leur toit familial la semaine dernière, ceci après 7 mois de formation reçue grâce à l'ONG internationale la Save the Children. Ils ont bénéficié des formations telles que la menuiserie et la maçonnerie. Rappelons également que ces enfants, jadis confrontés aux durs travaux, parfois même à l'exploitation sexuelle dans les mines, peuvent aujourd'hui se prendre en charge. Nous avons à ce sujet notre consoeur, Mickey Mputu. Mickey, vous êtes avec nous pour nous éclairer sur cette question concernant les enfants. Alors pour commencer, comment cela s'est passé concrètement, leur réinsertion?
Nicole, c'était dans une ambiance totale que la réinsertion s'est faite. Des chants, des cris de joie pour exprimer la joie. Ces enfants étaient donc dans la joie de retrouver leur famille après 9 mois passés en Mbujimayi dans des foyers d'encadrement, Nicole. Une joie intense également pour n'y être pas retourné, même pédouille. À la théorie apprise, ces enfants pourront désormais associer la pratique. Il y avait un kit de réinsertion communautaire composé de 37 machines à coudre pour ceux qui ont appris, qui ont suivi la formation en coupe et couture. Il y avait également 42 outillages de mécanique, 20 kits de menuiserie et un autre en cordonnerie. Donc ces kits étaient remis aux enfants pour leur réinsertion socio-professionnelle. Ces filles et garçons, dont l'âge varie entre 13 et 17 ans, se sont engagés à ne plus retourner dans les mines où ils n'ont plus bénéficié de pareilles connaissances, suivant leur témoignage.
Oui, il faut aller en avant, donc ces enfants sont très contents. Comment est-ce que leurs parents réagissent? Est-ce qu'ils ont été contents? Ils sont d'accord de laisser leurs enfants assister à cette formation?
Nicole, si les enfants étaient dans la joie, les parents l'ont été aussi. Selon l'un d'entre eux que nous avons contacté, après moquerie et doute de certains parents, le fruit du travail abattu ne tardera plus à se voir. Hein. Ils sont donc contents que ce qu'ils prenaient pour rêve puisse se concrétiser. Suivons-le.
Voilà, on sent que ce papa est très content. On va d'ailleurs résumer ses propos. Il remercie Save the Children car elle a fait partir la honte, dit-il, qu'il avait. On était victime, dit-il, des injures, disant que nous avons envoyé nos enfants au front. Aujourd'hui, il y a le fruit de cette formation. Nous demandons que le prochain projet tienne compte également des enfants qui n'ont pas été formés. Ça, ce sont les propos de ce papa que nous venons de suivre. Nous rappelons à tous ceux qui souhaitent intervenir sur cette question qu'ils sont les bienvenus au 081 070 2050. Mais il faut tout de même reconnaître une chose, hein, Mickey Mputu, je pense qu'il y avait quand même certains parents qui étaient, semblerait-il, inquiets, hein, pour cette formation.
Nicole, comme vous venez vous-même de le dire, d'autres parents accompagnés de leurs enfants avaient des visages pleins d'inquiétude. Ils étaient inquiets après le doute de n'avoir pas voulu libérer leurs enfants qui vivaient difficilement dans les mines. Ces projets, il faut dire, hein, Nicole, que ce projet de protection et de réinsertion socio-professionnelle des enfants des mines, financé par l'UNICEF et Save the Children à hauteur de 123 000 dollars, n'a permis qu'à 100 enfants sur les 12 000 que comptent les zones minières d'être réinsérés. Il s'agit d'un premier pas, mais le problème reste en entier dans le village minier, Nicole. Le chef de groupement de Luamouela, je voulais dire, appelle les ONG et d'autres organismes à continuer cette action. Suivons-le.
Voilà, donc lui aussi, le chef de groupement, en fait, qu'on a eu l'occasion de suivre, il appelle les ONG et d'autres organismes à continuer cette action. Mais vous comprenez mieux le Chiluba que moi, hein, Niké. Il y a d'autres éléments, peut-être que j'ai oublié.
Oui, Nicole, il dit pratiquement la même chose, c'est le même appel que celui du parent qui a parlé un peu plus tôt. Mmh. Lui, il insiste beaucoup plus sur le suivi de ses enfants. Il demande que ses enfants puissent se retrouver dans des ateliers pour qu'il y ait un meilleur suivi, parce que si ces machines à coudre sont dispersées dans tout Luamouela, là, il n'y aura pas un meilleur suivi. Et donc, il ne pourra pas savoir, c'est lui qui pourra le vendre. Donc, c'est comme ça qu'il cherchait qu'on puisse créer des ateliers pour que ses enfants puissent se retrouver dans ces ateliers et mieux exercer leur métier.
Oui, mais ces enfants sortis des mines, est-ce qu'ils ne risquent pas de se retrouver à nouveau dans les mines? Parce que nous avons vu des cas, hein, quand on a pris le goût de l'argent, la tentation est forte. Alors, comment est-ce que Save the Children compte-t-il assurer la pérennisation de ce projet?
Oui, Nicole, vous venez de le dire, le risque est permanent, hein, d'autant plus que ces enfants sont retournés dans leur milieu de vie où ils sont pratiquement entourés des mines. Ces enfants sont, les enfants qui vivent dans les mines sont donc dans un nombre important. Comme dit Sio, d'après les statistiques de la division des affaires sociales, sur 12 000 enfants que comptent les différentes mines qui entourent la ville de Mbujimayi, ils n'ont été que 100 à être réinsérés par cette ONG Save the Children. Quelle est la vraie raison? Est-ce le manque de moyens ou une activité qui sera en continuité? Seul Save the Children peut en savoir un peu plus, hein, Nicole.
Oui, donc ça veut dire qu'il y a encore d'autres enfants qui continuent à travailler dans les mines, hein?
Oui, il y en a beaucoup. Le nombre d'enfants qui se trouvent encore dans les mines, qui sont exposés à l'exploitation sexuelle et qui font des travaux un peu plus durs pour les enfants, ils sont nombreux, beaucoup plus que ceux qui sont réintégrés.
Affaire à suivre avec Jean Valéa en tant que représentant de l'ONG Save the Children au Kasaï Oriental. Nous rappelons à tous ceux qui veulent intervenir qui sont les bienvenus au 081 070 2050 pour les SMS. Si vous souhaitez réagir directement, autrement dit participer à l'émission, appelez-nous au 081 890 63 94. Quant à ceux qui nous suivent sur le net, écrivez-nous à action@radiotapi.net. Nickel Poutou, merci d'avoir été les nôtres et à la prochaine.
Merci.
Okapi Action, du lundi au vendredi, de 9h à 12h, heure de Kinshasa, avec Nicole Ngaka et jeudi Nkashama.
Nous vous l'avons dit au début de cette émission, tous les jours, nous aurons nos yeux braqués au Nord Kivu pour aborder avec vous ce qui se passe au Nord Kivu. Nous avons appris qu'il y a une mobilisation qui est en train de se faire dans la ville de Kinshasa, mobilisation initiée par les musiciens congolais à la tête Papa Wemba. Nous aurons donc Papa Wemba tout à l'heure à partir de 11h, heure de Kinshasa, 12h, heure de l'Est, qui viendra nous dire concrètement ce qui va être fait pour soutenir les populations du Nord Kivu. Et pour l'instant, on va recevoir notre invité pour cette question concernant la réinsertion socio-professionnelle des enfants sortis des mines, Jean Valéa, représentant de l'ONG Save the Children au Kasaï Oriental. Bonjour.
Bonjour.
Alors, nous avons appris que vous êtes en train de réinsérer certains enfants. Vous les avez fait sortir des mines et aujourd'hui, ils ont appris à coudre. Vous leur avez donné un kit de réinsertion communautaire composé de 37 machines à coudre pour ceux qui ont suivi la formation coupe et couture et autres matériels. Et maintenant, pour que ce projet soit pérennisé, comment comptez-vous vous y prendre concrètement au niveau de ces jeunes?
montre que la pérennisation de ce projet est une préoccupation de Save the Children vu la complexité de la problématique. Et nous savons que pour retirer un enfant de mine, il faut associer toutes les parties prenantes. Les parties prenantes, la communauté et les autorités et bien sûr l'enfant. Et pour ce faire, nous avons au niveau de la communauté, nous avons essayé de mettre ce que nous appelons les réseaux communautaires de protection de l'enfant qui va, dont le rôle c'est non seulement de faire le suivi rapproché au sein de la communauté et il y a le suivi auprès de la famille. Il y a un travail qui a été fait parallèlement dans le cadre de la mise en place du projet.
Mmh.
Au niveau des autorités locales, nous avons essayé d'impliquer les autorités locales. Depuis le haut niveau, au niveau de la province, jusqu'au niveau du village. C'est ainsi que pendant le séjour des enfants ici, les enfants ont pu rencontrer l'autorité provinciale et échanger sur comment ils vont s'installer. Et ils ont même posé des problèmes liés à des éventuelles tracasseries liées à leur installation sur le terrain. L'autorité provinciale s'est vraiment dévouée pour appuyer ces enfants.
Oui.
Enfin, au niveau des Save the Children, nous essayons aussi, parce que les 100 enfants n'inclinent pas vers les 12 000 enfants. Nous sommes en train de développer actuellement un programme qui consiste à réduire ces enfants au niveau des sites à travers l'éducation, qui va être focalisé sur 2 000 enfants et qui est en train d'être mis en œuvre. Dans le cadre de ce projet, les enfants, ces 100 enfants vont être intégrés dans le suivi quotidien de nos activités. Donc, vu tous ces risques, nous avons essayé de mettre tous ces aspects de notre côté pour pouvoir minimiser un tant soit peu les risques qui, d'ailleurs, sont connus dès le départ.
Mais nous avons quand même une certaine crainte parce que nous savons que dans bien des cas, lorsqu'il y a formation, il y a toujours la crainte que ces enfants puissent retourner encore dans les mines. Quelles sont les dispositions que vous avez eues à prendre pour que ces enfants ne soient pas à nouveau tentés par le goût de l'argent dans les mines, Jean Valère?
Ok. Bon, je dis que vraiment le risque est grand, mais l'espoir est permis. C'est pour cela, pendant la formation de ces enfants, l'apprentissage de ces enfants, on ne s'est pas focalisé seulement à l'apprentissage du métier. Nous avons focalisé nos actions sur non seulement l'éducation à la vie, la gestion des activités génératrices de revenus. L'éducation à la vie, nous avons abordé des problèmes liés à l'intérêt pour l'enfant de développer au fur et à mesure des stratégies alternatives qui vont lui permettre de vivre de manière continue et de manière programmée. Donc, pendant, on a fait ce genre de formation, on a essayé d'intéresser l'enfant à l'alphabétisation, à l'éducation non formelle, et ça, ce n'est pas suffisant.
Mmh. Il y a combien d'enfants qui ont pu bénéficier de cette formation de coupe et couture, de cordonnerie et puis également de menuiserie? Ils sont au nombre de combien?
Il y a 100 enfants exactement, dont un garçon pour la cordonnerie, 20 garçons pour la menuiserie. Et il y avait la mécanique moto et groupe électrogène, 42 enfants, et puis la coupe couture, où il y avait 37 enfants, 27 filles, et puis une dizaine de garçons.
Juste une précision, est-ce que vous avez l'idée du nombre d'enfants qui se retrouvent actuellement dans les mines?
Oui. Selon les estimations de notre partenaire UNICEF, nous avons 12 000 enfants dans les mines de Bujumaï aux alentours.
12 000 enfants, et sur ces 12 000 enfants, vous avez seulement retiré 100?
Oui, comme vu la complexité de la situation, nous avons voulu faire un premier pas, évaluer la situation et pouvoir progresser en faisant des pas sûrs. Et c'est vrai, 100 enfants, c'est peu par rapport à 12 000 enfants. Mais comme je vous l'ai dit, il fallait faire quelque chose. Et vous savez, il y a les moyens qui sont limités et c'est l'occasion. Par votre antenne d'attirer l'attention sur la situation. Il y a 12 000 enfants, il y a 100 enfants qui sont en train d'être retirés. Nous sommes dans un processus de retirer 2 000 enfants. À travers l'éducation, nous serons à 2 100 et nous n'aurons pas, avec ces 2 100, avoir atteint même les 50% de saison.
Oui, mais il y a quand même un problème parce que la population qui vous suit en ce moment sait que ce projet a été financé à 123 000 dollars américains. Et pour ces 123 000 dollars américains, vous n'avez pu retirer que 100 enfants. Pourquoi vous n'avez pas pu aller au-delà? Même 500 enfants, ça aurait été équitable.
Oui, je dis que là, ce sont les bénéficiaires directs que nous pouvons vous montrer, vous indiquer. Mais pendant le processus de ce projet, il y a eu des activités de sensibilisation à travers la radio, la sensibilisation à travers le théâtre. Les enfants même ont fait le théâtre, la communauté. Il y a eu des activités de sensibilisation et de mise en place des réseaux communautaires qui coûtent énormément un coût. Et qui vont aider à retenir un certain nombre d'enfants qui allaient risquer d'aller sur les mines pour augmenter à plus de 12 000, mais aussi qui ont contribué à retenir un certain nombre d'enfants.
Les enfants, c'est
les bénéficiaires directs, l'exemple qu'on voulait montrer.
Oui, donc ça veut dire
qu'il y a plein d'exemples dans cette communauté que nous pouvons imaginer.
Donc ça veut dire que ce n'est qu'un premier pas, vous avez encore des fonds pour retirer d'autres enfants. Hein. Vos fonds ne sont pas épuisés, les 123 000 dollars américains ne sont pas épuisés.
Non, c'est pour les 100 000 dollars.
Oui, donc...
Oui. Je comprends votre inquiétude, parce que si avec 100, si on fait l'exemple tout de suite avec les 100 000 dollars, si on a retiré 100 enfants, c'est qu'un enfant revient environ à 1 000 dollars. Mais là encore, je reviens sur la problématique du programme protection, qui est assez différent des autres problématiques. Parce que retirer, si on veut faire un coût, efficacité, et si on ne fait pas attention, on n'arrivera même pas à retirer un seul enfant. Je dis que le coût, souvent, n'a pas d'importance en ce qui concerne le retrait d'un enfant, d'un travail aussi dangereux et exploitatif, qui est de tolérance zéro par rapport à d'autres situations. Parce que quand vous prenez l'éducation, on dit non, ok, un enfant peut revenir à 10 dollars pour son cursus. Quand on compare à un enfant qui va revenir à 500 dollars ou à 1000 dollars pour sa réinsertion, on voit le coût très élevé. Mais dans la réalité, ça vaut la peine.
Oui.
Parce que pour chaque enfant, en fonction même de son choix, les coûts peuvent être exorbitants. Si je peux vous faire les comparaisons, en prenant les exemples que nous avons sur la cordonnerie, la menuiserie, la coupe et couture, en fonction du choix de l'enfant déjà, on peut aller du simple à 10 en termes de coûts unitaires.
Jean Vallée, en tant que représentant de l'ONG Save the Children au Conseil oriental, c'est vrai, vous avez un grand travail à faire parce que vous avez parlé de combien d'enfants dans les mines actuellement? 12 000 enfants. Donc il y a un grand travail qui reste encore à faire. Et rien ne dit, rien ne garantit que ces enfants que vous avez eu à former, réellement vont s'appliquer à ces métiers. Le danger est permis parce qu'ils peuvent retourner dans les mines. Hein. Si ça ne marche pas, malgré qu'ils ont suivi cette formation, si ça ne marche pas, ils peuvent à nouveau retourner dans les mines pour chercher de l'argent. Et qui sera recommencé.
Je suis découragé parce que souvent je discute avec la communauté, je discute avec les enfants, je discute avec les partenaires pour attirer leur attention que nous-mêmes qui avons suivi un circuit scolaire normal jusqu'à l'université, nous avons des problèmes souvent de réinsertion avec tous nos diplômes. Donc pour un enfant qui a subi 6 mois de formation et d'apprentissage a besoin d'un suivi plus rapproché.
Vous allez les suivre.
Le risque est très énorme.
Donc,
je dis que pour que le risque, on minimise le risque, il faut que chacun de nous contribue au processus. C'est pour cela que nous mettons l'accent sur la participation communautaire, en mobilisant la communauté et réellement, en essayant de collaborer avec nos partenaires étatiques. Et on prend le temps pour revenir, pour échanger, pour discuter et prendre toutes les dispositions. Parce que sinon, on va dire non, ce n'est pas possible. Alors que quand on dit ce n'est pas possible, on n'en commence jamais.
Oui, Jean Valéa, on va voir comment ça va évoluer, si réellement ces enfants vont s'appliquer dans les différentes formations. On va voir aussi si vous aurez à réinsérer insérer d'autres enfants parce qu'il y a un grand travail qui reste encore à faire. Hein. Mais pour aujourd'hui, on s'arrête là. Nous rappelons à tous nos auditeurs que vous êtes le représentant de l'ONG CLO Children au Kasaï-Oriental. Merci d'avoir été les nôtres et bon courage.
Merci beaucoup, madame.